philosophie éthique, Père Marie-Dominique Philippe, 11 mars 1998 à Saint-Jean-d'Arc.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de cours particulier sur l'éthique. Alors, vous nous avez parlé de la délibération portant sur les moyens. Où se situe la différence entre un moyen moral et un instrument du point de vue artistique? Le rapport à la finalité et à l'agent est-il le même? C'est très vrai qu'un instrument est un moyen. Je prends une auto, une bicyclette, ce sont des moyens pour aller plus vite, pour se rendre à tel but. C'est des moyens de l'ordre de l'efficacité. Ça se prend en raison. Vous voyez, tout moyen, tout instrument sont ordonnés à une action humaine et sont en connaturalité avec cette action. Donc, il y a des moyens dans l'ordre de l'efficacité. Il y a des moyens dans l'ordre de la durée. C'est pas la même chose. Et quand on parle en théologie, en disant que l'humanité sainte du Christ est un instrument du Père, comme prêtre. Le prêtre est un instrument, il est médiateur. Alors, c'est en vue de la sainteté. Le moyen, instrument, bicyclette, c'est en vue de l'efficacité. L'avion, en vue de l'efficacité. La durée, ça, c'est, donc c'est de l'ordre du faturé. La durée, c'est un moyen dans l'ordre de l'activité morale. Je prends un serviteur. Dans l'ordre de mon activité. Alors, il peut être les deux en même temps. Il peut être un instrument efficace. Il m'aide. Je n'ai pas le temps de le faire. Je lui demande de le faire. Mais comme c'est un but moral, c'est en vue de ma fin, de mon bonheur. À ce moment-là, ce n'est plus au sens strict. Un instrument, ça peut être quelqu'un qui est un serviteur ou un ami. Le meilleur des serviteurs, c'est un ami, quelqu'un que je connais bien. Alors à ce moment-là, c'est quelqu'un qui prolonge mon activité morale. Tandis que l'instrument, c'est celui qui prolonge mon travail. Mon activité d'efficacité. Vous voyez, donc, comme toujours, les moyens sont relatifs à leur fin. Un instrument est un moyen. Un serviteur est un moyen, mais animé et moral. Tandis que moyen, un instrument dans l'ordre de l'efficacité n'est pas au sens strict quelqu'un qui m'aide à rester fidèle à ma vocation, à ma finalité. C'est quelqu'un qui est plus que cela, mais il est aussi un moyen. bien commun. Nous sommes responsables moralement du bien, de ce bien commun qu'on cherche. Mais il y a donc une intention morale qui est beaucoup plus importante et qui donne le caractère propre de ce moyen qui est une personne, qui est un ami, qui est un serviteur, ou au contraire qui est un instrument et qui prolonge mon efficacité. Un instrument d'ordre du fat-géré. Un instrument qui est de l'ordre de l'intelligence, point de vue logique, qui peut m'aider à calculer, une machine à calculer, un instrument à calculer. Alors, à ce moment-là, ce n'est plus. C'est un moyen uniquement d'ordre de l'efficacité. Vous voyez, c'est le but. C'est la manière dont on use d'un instrument, dont on use d'un moyen. On en use en vue d'atteindre cette finalité de l'ordre de l'amitié, cette finalité de l'ordre de la sainteté du bien commun. Moral dans lequel j'ai confiance, auquel je peux vraiment confier dans l'ordre moral des services, tandis que l'instrument d'efficacité ne regarde pas le point de vue moral. Le point de vue moral interviendrait pour un travail qu'on peut faire en commun. Si l'instrument n'aboutit pas, si l'instrument tombe ou est brisé pendant le temps que je travaille, ça me fait perdre beaucoup de temps. Alors là, ça peut intervenir, le point de vue moral. Oui. Je loue un instrument. Dans les campagnes, aujourd'hui, on loue au moment de la moisson, on loue des machines, des moissonneuses. En même temps, non seulement coupe le blé, mais en même temps met tout en rouleau, la paille. Cette machine, elle en fait des contrats. Cette machine tombe, c'est quelque chose qui ne va plus, on ne l'avait pas vu, qui fait qu'elle ne marche plus. Alors, je l'ai loué pour un mois. Alors à ce moment-là, oui, intervient le point de vue de l'efficacité et un point de vue moral. Constamment, c'est comme ça, parce que toute activité n'est jamais purement efficace, elle est humaine. Vous n'avez pas le droit de considérer des ouvriers qui sont des instruments de travail, mais comme ils sont des hommes et animés, je n'ai pas le droit de les considérer uniquement comme des instruments d'efficacité. Je dois les considérer comme des hommes. Et donc je ne dois pas leur donner un travail qui dépasse leur force et qui fait qu'à ce moment-là, leur travail devient un boulot purement machinal, purement d'instrument. Et c'est toutes les questions morales qui interviennent à ce moment-là et qui deviennent très complexes. C'est comme les machines, le prolongement de la raison. Voir jusqu'où ces prolongements abîment l'homme. Ça peut être merveilleux au point de vue efficacité, mais ça peut être terrible au point de vue humain, au point de vue relation humaine. Alors, est-ce que j'aurai le droit d'être celui qui fait de la propagande pour ces machines ? En rendant les hommes plus bêtes. Et tous les problèmes qui se situent à ce moment-là, et qui se situent au niveau moral, au niveau religieux, vous abstrait complètement du point de vue moral. Et ça, ce sont des problèmes actuels qui sont les interventions du point de vue moral, du point de vue technique au point de vue moral. Il y a des techniques qui créent certains milieux. Un milieu qui vous abrutit complètement. Est-ce qu'on a le droit de se servir de ces instruments qui, on sait, vont diminuer votre capacité morale d'homme? L'efficacité n'est pas par elle-même humaine. La responsabilité est par elle-même humaine. Alors, certains instruments sont tellement puissants, tellement complexes, qu'ils peuvent permettre un travail très rapide, mais qui n'est plus humain. Et ça, c'est tous les problèmes d'aujourd'hui, au point du travail. Au début de la machine, de l'industrialisation, on n'a pas fait assez attention à cela. Donc on a coupé l'homme de sa finalité. On a fait une bête de somme uniquement pour le rendement, uniquement pour l'efficacité. Ce qui n'a pas permis. Point de vue philosophique, poser le problème et après voir que c'est très vrai que je n'ai pas le droit de favoriser un progrès d'efficacité qui va contre le point de vue moral et de la responsabilité. Conflit des deux. Point de vue médical aussi, vous voyez. Je n'ai pas le droit de prendre certains produits qui peuvent supprimer totalement certaines souffrances, mais qui me rendent complètement automatique, supprimant tout le point de vue moral de la responsabilité. Là, il y a un dosage. Ce sont des problèmes médicaux aujourd'hui, au point de vue de l'affaiblissement de la douleur. D'autre part, ces produits sont bons s'ils permettent aux malades de rester conscients parce qu'ils diminuent la douleur. Et alors de vivre sa maladie humainement et pas la vivre en pur patient qui n'a plus conscience humaine de sa responsabilité. Donc vous voyez, distinguer la question des moyens par la finalité, distinguer la possibilité des moyens par rapport à celui qui s'en sert. Les moyens ont toujours une double relation. Une relation d'efficacité, une relation humaine. Et c'est toujours les mêmes problèmes. Et pour la médecine, pour les médicaments qu'on donne, vous n'avez pas le droit de prendre n'importe quel médicament. C'est en vue de la finalité. La bonté d'un médicament peut se prendre et doit se prendre à l'égard de sa finalité et à l'égard de l'usage humain qu'en fait l'homme. C'est la même chose des fortifiants. Surtout pendant le temps du carême. C'est des fortifiants qui sont très bons. Mais dès qu'on exagère, ce fortifiant vous enlève votre responsabilité. C'est trop fort. Donc vous voyez, là, je dirais que c'est très lié à la prudence. Prudence est comme une sagesse. Pourquoi dit-elle ça? Parce que la prudence regarde les moyens, la délibération qui a les moyens, et qui doit juger de la valeur de ces moyens pour le point de vue moral. Point de vue chrétien, c'est le même problème, puisque le moyen est toujours ordonné à la fin, essentiellement ordonné à une fin. Le choix de l'amitié, qui me permet d'aller toujours plus loin dans l'amour d'amitié, est-il opéré par l'intelligence ou par la volonté? N'est pas toujours un acte personnel. ça peut être un acte où je mendie le choix de mon ami. Tu suis les événements beaucoup mieux que moi. Dis-moi qui on doit choisir. Quel est le parti politique pour qui il faut choisir? Parce qu'on aura bientôt des élections alors. Je ne sais pas quelle partie de la France je suis à, mais il y aura des élections. Alors quand on est électeur, on reçoit le paquet des différents candidats qu'on veut voter. Quand on ne fait pas beaucoup de politique, comme religieux, on ne sait plus très bien l'évolution des partis. Alors on a besoin d'un ami auquel on n'a pas vraiment toute confiance. Et on peut lui dire, très bien, je suis absent ce jour-là, tu voteras pour moi, on demande une procuration. Oui, c'est très curieux tout ça, parce que ça montre très bien que le choix est un acte intellectuel. C'était un acte purement volontaire. Je ne peux pas dire à quelqu'un, tu choisiras ton ami. Je choisirai mon ami en me fiant entièrement à toi. Les amis de mon ami sont mes amis. On dit ça, hein. Mais c'est très faux. C'est en partie vrai. Vous voyez, dans le choix amical, on choisit une personne comme ami. C'est beaucoup plus l'amour spirituel qui commande mon choix. Quand il s'agit de choisir un moyen d'efficacité, vous demandez à un spécialiste. Quand il s'agit de choisir un moyen pour ma santé, j'ai perdu l'appétit. J'étais un peu trop loin, j'ai perdu l'appétit. On sait, il y a un seuil. On perd l'appétit. Alors, on ne sait plus choisir. Un ami est là qui connaît très bien mon goût. Je peux lui dire, choisis pour moi le régime que je dois prendre. On peut faire ça. Choisis pour moi ce qu'il y a de plus. Pour me remonter le plus vite possible. Et là, il y a des choix très profonds. Je suis seul à pouvoir faire. La vocation. Même mes parents ne peuvent pas choisir pour moi. Au Concile de Trente, les théologiens français, gallicans, voulaient que pour le mariage, donc le choix de l'épouse ou le choix de l'époux, la vie des parents était nécessaire pour la validité. Ça, c'était les théologiens français, gallicans. Heureusement qu'il y avait les théologiens espagnols qui étaient thomistes. Et qui ont dit non, le choix des parents n'est pas nécessaire. Alors, j'espère que là, les Mexicains sont espagnols, n'est-ce pas? Ils continuent de prendre ça, qui est le point de vue de Thomas d'Aquin. Les parents ont un droit de conseil, mais pas plus, pour le choix de l'époux et de l'épouse. Et les limites de la validité d'un choix, c'est très intéressant ça. On s'y perd. Et c'est le droit canon constamment veut limiter et sauver la liberté. Je me souviens, quelquefois, on est entraîné dans des questions très délicates quand on ne fait pas attention. les parents sont très jaloux là-dessus. Alors, les enfants qui sont dirigés, bien, les jeunes gens qui sont dirigés par des dominicains ou des jésuites, mettant des saints Jean, et en troisième lieu, ou par un franciscain, s'appuient sur le consentement et ne disent rien à leurs parents. Je connais un cas où il y avait un père de Saint-Jean qui était mêlé à une histoire tout à fait extrême. Les parents voulaient à tout prix que leur fille épouse telle. La fille était dirigée par un père de Saint-Jean. Il savait que ce n'était pas du tout son choix. Et elle voulait le faire très vite. Elle aimait quelqu'un d'autre. Elle avait le droit. Alors elle voulait un mariage clandestin. Elle avait fait ça, lui, en disant, il y a des mariages clandestins au plan politique. C'est bien plus important du point de vue de l'amour d'amitié. J'aime celui-là, l'autre, c'est le choix des parents. C'était la question de famille, vous comprenez, des mariages de famille, qui avaient un peu le même genre de culture et de civilisation, de fortune aussi. Ça joue aussi. Ça joue encore plus. Alors, pratiquement, il lui avait conseillé un mariage clandestin. J'ai reçu une lettre d'injure du père qui, 8 jours avant le mariage, il y a eu une fuite. Parce qu'on est quand même obligé. On peut faire le mariage clandestin.
Du
mariage. Il n'y a pas de sacrement s'il n'y a pas de liberté. Et quand vous hésitez, c'est une liberté. Vous n'avez pas le droit d'accepter de bénir le mariage. Quand un canoniste expert a étudié la question, il vous dit oui. Mariage sur destin, très bien. Ça se fait dans la plaine clandestinée. Comme maintenant il y a 20 ans de ce mariage. Dans la sacristie, ou dans le musée, ou n'importe où. Dans la sacristie, si le sacristain n'est pas tous les jours ivre, non, parce que ça arrive, ça, que ça qu'il soit ivre, tu vois, parce qu'il termine des burettes. Dans le temps, c'était comme ça que ça arrivait. Pas dans la vie religieuse, mais... Oui, ceci, c'est pour vous montrer que le conseil, que le choix, le choix est quelque chose de très important. Surtout quand il s'agit de l'amitié, surtout quand il s'agit du mariage. Et qu'il a quelque chose de personnel. Ça touche à la personne. Empêcher quelqu'un de choisir, c'est toucher directement à sa personne, à sa liberté. Attentif et connaître la loi. La loi dans tous les pays civilisés doit permettre aux citoyens de pouvoir se marier librement, doit permettre à un foyer d'avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent ensemble. Limiter les enfants est une loi injuste. Parce que la plus grande liberté de l'homme, c'est le choix par rapport au mariage. Et c'est le choix par rapport à la fécondité. Et c'est vis-à-vis de ces choix-là que le philosophe s'intéresse le plus. Parce que c'est ce qui révèle le mieux la personne. Oui, c'est pour ça qu'on a parlé du libre arbitre. C'est un terme qui est venu à partir des théologiens. Parce que c'est sûr que c'est la religion chrétienne qui maintient le mieux la liberté de choix. Alors, on distingue deux espèces de liberté. La liberté du choix par rapport à la détermination objective, le choix d'amis qui regarde la personne, et le choix de l'exercice, la liberté d'exercice. Je peux poser un acte ou ne pas le poser. Je peux choisir tel ami ou tel autre. Mais est-il juste de dire que c'est grâce à l'analogie qu'on peut dire, dans l'ordre de l'amour, que les amis ont même valeur, ont même vouloir? Il me semble que si ce n'était pas à cause de l'analogie, ce serait un même vouloir univoque. Ce qui me paraît impossible, parce que chacun des amis a sa propre intention, surtout dans l'ordre de l'exercice, qui est individuel. On peut avoir, quand on dit le même velé, on parle de l'objet du vouloir. Je choisis tel ou tel petit pain. meilleure que les autres. Et mon ami a le même goût. Mais la liberté d'exercice est toujours individuelle. Donc l'idem velle porte sur l'objet. Alors à ce point de vue-là, c'est la détermination spécifique qui n'est pas analogique. Mais l'exercice de l'amour d'amitié est toujours divers pour chacun. L'analogie porterait par rapport à la diversité des déterminations du bien par rapport au bien en soi. Ce qui me paraît impossible parce que chacun des amis a sa propre intention. Vous voyez, alors l'intention qui porte sur la finalité, sur le bien essentiel, on peut avoir la même intention au notre noviciat de Saint-Jean. C'est la même intention, c'est le même choix. Mais on y entre avant les vacances ou après les vacances. Ça, l'exercice est différent. Mais en même temps, il me semble que chacune de ces intentions n'est pleinement elle-même qu'unie à l'autre intention. Oui, c'est le choix des amis. Donc, l'intention a un objet spécifique.